Dimanche 25 février 1979. 19e leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
Alors tout d'abord, une précision sur l'expression successeur des apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres, mais collectivement. C'est-à-dire que si je rencontre tel évêque, je ne puis pas me dire « voilà un successeur des apôtres ». Ce sont tous les évêques, c'est-à-dire le collège épiscopal, qui succèdent au collège apostolique, c'est-à-dire l'ensemble des évêques unis au pape. Autrement dit, un évêque particulier n'est pas successeur des apôtres, c'est l'ensemble. C'était la première chose que je voulais vous dire. À propos toujours des apôtres et des évêques, il y a une triple distinction à faire. Les apôtres ont été envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que les évêques sont envoyés par le pape. Il y a un intermédiaire. Vous savez que dans certains pays, le gouvernement, je dirais, propose les candidats. Il ne nomme pas les évêques. Il propose les candidats, c'est le cas. C'était le cas pour l'Espagne, je ne suis plus trop sûr que cela dure. C'est le cas pour l'Italie. C'est en tout cas vrai pour l'Alsace et la Lorraine en France, qui sont restés sous le régime du concordat de Napoléon. C'est le gouvernement français qui propose les candidats, mais c'est le pape qui leur donne, comme on dit, l'institution. C'est lui qui envoie. Autrement dit, il s'agit d'un pouvoir de présentation et non pas à proprement parler d'un pouvoir de nomination. On présente le candidat. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu toute une querelle à propos d'un tout petit mot, précisément. Dans le texte officiel, je suppose que c'était le texte romain du Concordat, on disait que le gouvernement français nommait les évêques. La phrase, je ne sais plus comment est la phrase, mais c'était nominavit, le gouvernement a nommé. Et Rome disait, mais vous avez fait sauter un petit mot très important. Ce n'est pas nominavit, c'est nobis nominavit. C'est-à-dire, nous a été présenté, et non pas a été nommé. C'est le pape donc qui nomme les évêques, à proprement parler. C'est lui qui les envoie. C'est la première distinction. Les apôtres ont été envoyés par le Christ, tandis que les évêques sont envoyés par le pape. Deuxième distinction, le champ d'action. Les apôtres ont été envoyés par toute la terre. Ils n'étaient pas limités dans l'espace. Tandis que les évêques sont à la tête d'un territoire tout particulier. Tout au moins en général. Les apôtres avaient pouvoir partout. Ils n'avaient pas à se monter sur les pieds. Ils pouvaient prêcher dans la même ville, tous. Et la troisième distinction, eh bien les apôtres avaient reçu un certain nombre de pouvoirs que les évêques n'ont pas forcément. Par exemple, le don des miracles. Il peut arriver qu'un évêque ait le don des miracles, mais c'est plutôt rare comme phénomène. Ah, ça peut arriver. Les apôtres avaient ce don des miracles. Et les apôtres avaient, à titre individuel, le charisme de l'infaillibilité. Les apôtres étaient aussi infaillibles que le pape en ce moment. Les évêques le sont d'une certaine manière, que je n'ai jamais bien comprise d'ailleurs. Alors je vous livre mon ignorance. Les évêques sont infaillibles collégialement, et quand ils sont unis au pape. Je n'ai jamais trop compris la différence entre cette infaillibilité du collège épiscopal unie au pape et l'infaillibilité du pape, puisque finalement, l'infaillibilité du collège épiscopal se résout à la sanction du souverain pontife. Enfin, je vous livre ma science avec ses lacunes. L'ensemble des évêques est infaillible dès le moment où le pape donne sa sanction. Mais ce n'est pas une idiotie, c'est moi qui suis idiot. Si ce n'est pas clair, c'est que je ne comprends pas, n'est-ce pas ? Une autre remarque, c'est une série de remarques aujourd'hui, comme je l'ai fait quelquefois. À propos du premier devoir de l'évêque, quel est le premier devoir de l'évêque? C'est l'enseignement. Nous pourrions dire du prêtre que son premier devoir, c'est de dire la messe et de donner les sacrements. L'évêque, lui, est chargé d'abord d'enseigner. C'est son premier devoir. Autrement dit, l'archevêque de Paris a le devoir d'enseigner la doctrine, de redresser les erreurs, de veiller à ce que le catéchisme soit enseigné bien partout, à tous les enfants, le plus possible et le mieux possible. C'est son premier devoir. J'espère qu'il l'accomplit au mieux. Le premier devoir des évêques. Remarque suivante, à propos du pouvoir de gouvernement. Un évêque dans son diocèse peut porter des lois de toutes sortes, même des lois liturgiques, à condition que ces lois n'aillent pas contredire la loi générale. Il peut parfaitement préciser quelque chose, dire qu'à la messe, on fera précéder l'ensemble des rites de tel rite particulier, si on ne touche pas aux autres. Ça ne vient pas contredire. Je me souviens que dans un diocèse où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, il y avait chaque dimanche à la grand-messe un rite particulier qui d'ailleurs était parfaitement ridicule. On y chantait l'hymne des vêpres. Ça n'empêchait pas d'ailleurs les gens d'assister aux vêpres l'après-midi, mais je me rappelle très très bien cette particularité du diocèse de Laval. Avant la grand-messe, on chantait l'hymne des vêpres, et certains hymnes sont tout à fait chantables le matin, mais d'autres ne le sont pas du tout. Des hymnes dans lesquels on remercie Dieu de la journée, de ce qui est passé de bon, et dans lequel on demande pardon à Dieu de ce qu'on a bien pu commettre, des choses qui font allusion à la tombée de la nuit. Ça n'est pas convenable du tout. Enfin, c'était un rite particulier. L'évêque peut parfaitement porter des lois particulières quand elles ne sont pas en contradiction avec les lois générales. Ces lois peuvent même être intelligentes. Ce n'est pas le cas pour celles dont je vous parle, mais elles peuvent l'être. Il n'y a pas d'impossibilité à la chose. Une autre remarque encore, les évêques et les curés se doivent à leurs diocésains ou à leurs paroissiens en justice. Mais non pas les autres. Par exemple, les vicaires ou les prêtres comme moi, qui n'ai pas de poste, ne se doivent aux âmes qu'en charité. Vous allez voir la nuance. Imaginez que tout à coup éclate une persécution. Eh bien, l'archevêque de Paris est tenu de rester sur place, malgré le danger. Il se doit à ses diocésains, son troupeau. Le curé de la paroisse est obligé d'en faire autant. Les vicaires peuvent parfaitement passer la frontière. S'ils le font, ils prouveront qu'ils ne sont pas très très courageux, mais ils ne doivent pas cela aux âmes. Mais nous attendrions d'eux qu'ils le fissent en charité. Si la persécution éclate, eh bien, vous me verrez disparaître. Enfin, il se peut que vous me voyez disparaître. Vous savez, je parlais la dernière fois au petit sermon des évêques français pendant la Révolution. Ils sont tous partis. Sauf, j'ai donné le chiffre, 4. Ils étaient 130 en tout. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que... Alors là, c'est pour les excuser. Et il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûr que le pape Pie VI ne leur ait pas demandé de le faire. Enfin, c'est pour les excuser. En principe, un évêque doit rester sur place même s'il y a danger. Un curé de même, à moins que sa présence ne devienne un danger pour ses ouailles. Ça peut se faire. Pendant la Révolution, par exemple, il y avait un curé en Poitou qui est devenu un saint, Saint-André Hubert Fournet. Il était curé de Saint-Pierre de Maillé. Il est resté le plus possible dans sa paroisse. Il se cachait. Il donnait les sacrements. Et puis un beau jour, il s'est aperçu qu'il compromettait les paroissiens de Saint-Pierre de Maillé. C'est-à-dire que les gens n'osaient plus le cacher, parce que ça devenait trop dangereux pour eux. Alors il passa en Espagne, non pas par lâcheté, mais par charité finalement pour ses paroissiens, auxquels d'ailleurs il ne pouvait plus faire aucun bien, à cause de la situation. Donc il peut y avoir des modalités, si vous voulez. Mais en principe, un évêque et un curé se doivent, en justice, à leur troupeau. les autres prêtres ne se doivent qu'en charité. J'espère qu'il n'y aura pas de persécution. Et puis, j'espère que s'il y a une persécution, je ferai mon devoir, là où le bon Dieu me le montrera. Autre remarque encore, tout à l'heure j'ai parlé des paroisses. Comment devrait se présenter une paroisse? Je veux dire, du point de vue de la population. À Paris, nous avons des paroisses trop grandes. En France, je parle de la France en ce moment. En France, à la campagne, nous avons des paroisses trop petites. Tout est mal fait. Les choses sont souvent mal faites en France, vous savez. Nous sommes toujours très très fiers de nous-mêmes. Nous avons une certaine prétention. Nous nous figurons que nous avons toujours raison en tout. Nous avons des paroisses mal faites. En principe, le curé devrait pouvoir connaître tous ses paroissiens. En principe. Et j'appelle paroissiens les catholiques, mais aussi les autres. Un évêque est chargé de toutes les âmes qui habitent son diocèse, y compris les âmes des non-baptisés, des protestants, des autres. Il est chargé de toutes les âmes. Il aura à en répondre devant Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera coupable de toutes les fautes qui se commettent, mais il sera coupable de ne pas avoir dit ce qu'il fallait dire et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Il est responsable de tout. Un curé de paroisse de même, le curé de paroisse est responsable de toutes les âmes qui habitent sa paroisse. Toutes. Il aura à répondre. Je rappelle que être responsable, c'est cela que ça veut dire. Il faut toujours rafraîchir la mémoire des chrétiens sur le sens de certains mots très importants. Donc, le curé est responsable de toutes ces âmes, il devrait les connaître. Le bon pasteur connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. À Paris, les paroisses ont facilement 30 000, 40 000 ou 50 000 habitants. Comment voulez-vous qu'un curé connaisse tout ce monde-là? Il y a 30 ans, une paroisse à Paris qui avait plus de 100 000 habitants. Elle a été divisée depuis. C'était Saint-Lambert de Vaugirard. C'était une énorme paroisse. À la campagne, vous avez une poussière de campagne, des villages qui se sont dépeuplés. Il y a un curé là qui fait paraître un bulletin paroissial qui connaît un certain succès en ce moment parce que quelqu'un l'a remarqué, un journaliste, c'est un curé de Picardie. J'ai eu son livre entre les mains. Il est curé de 7 paroisses, je crois. Mais il groupe en tout quelque chose comme 2300 habitants. Ce qui est finalement une population assez normale. Une paroisse de 200 habitants, c'est ridicule. On se connaît trop. Alors on se dispute avec ses paroissiens. Une paroisse de 100 000 habitants, c'est aussi ridicule. Quand je serai pape, j'arrangerai tout cela. Si je vous parle de cela, ce n'est pas pour critiquer une situation à laquelle je ne peux rien, mais c'est pour vous faire comprendre ce qui, dans l'esprit de l'Église, est une paroisse. Un troupeau normal. Quelqu'un qui est curé d'une paroisse connaît tout le monde, voit les difficultés, aussi bien matérielles que morales, et essaie d'y porter remède. À propos de l'obéissance que nous devons aux évêques et aux prêtres, j'ai déjà parlé de l'obéissance la dernière fois. Alors c'est une généralité qu'on peut appliquer à ce qui nous occupe ce soir. Nous devons obéissance à nos supérieurs dans les limites de leurs compétences aussi longtemps qu'ils ne nous demandent pas quelque chose d'immoral. Nous devons donc obéissance au curé. Je prends un exemple, c'est une question qu'on m'a posée hier, une question tout à fait naïve. Il s'agit d'une communion privée, mais une communion privée un peu collective. Si quelqu'un veut faire sa communion privée, et qu'il vienne me voir, je lui dirais bien qu'il se présente à n'importe quelle messe que je dis, ou à une messe que quelqu'un d'autre dit, et puis qu'il communie. Je verrai simplement si ce petit garçon ou cette petite fille en savent assez long pour communier. C'est absolument privé. Mais dès le moment où on organise une petite cérémonie, alors c'est le cas, c'est un groupe de petits-enfants qui ont fait leur communion privée chez des religieuses. Et la dame qui s'en occupe m'a dit, la religieuse m'a dit, oui, c'est d'accord, mais à condition que monsieur le curé veuille bien. Et elle me dit, est-ce que c'est normal? Et bien, je dis oui. Parce que c'est une petite cérémonie, il faut l'accord du curé. Mais ce n'est pas dans son église, mais c'est sur sa paroisse. Alors elle va demander la permission. On a toujours le droit d'ailleurs de prendre des gants et d'être diplomate. On peut s'arranger pour que ce soit oui. Mais il ne faut pas aller, par exemple dans un cas comme celui-là, contre la volonté du curé. Il est le maître chez lui. De même l'évêque. L'évêque, on peut parfaitement prendre des initiatives, le plus possible. C'est pas la peine de se pendre au basque, j'allais dire à la soutane de Monseigneur, mais il n'en a plus. C'est pas la peine de se pendre au basque de l'évêque ou du curé pour toute chose. On peut, si vous voulez, commencer son affaire sans lui en parler. Surtout si ce sont des choses tellement normales. Mais s'il s'en aperçoit et qu'il interdise, eh bien il faut avoir assez de foi et assez de courage pour cesser. On donne habituellement à ce propos l'exemple de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, et on a raison parce que l'exemple est assez éclatant. Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort a prêché dans un certain nombre de diocèses de l'Ouest. Pour prêcher, un prêtre doit avoir l'assentiment de son évêque, de l'évêque du lieu. Il prêchait des missions. Pour prêcher une mission, il faut avoir encore un peu plus cet assentiment. C'est normal, tout le monde le sait. Alors il prêchait le plus qu'il pouvait, et puis au bout d'un certain temps, comme la plupart de ces évêques de l'Ouest étaient jansénistes, on lui interdisait de prêcher. On se rendait compte qu'il ne l'était pas, lui, janséniste. Alors il cessait de prêcher. Et passait dans le diocèse à côté. Non pas pour jouer un mauvais tour à l'évêque qu'il quittait, parce qu'il le faisait l'amour dans l'âme, mais simplement parce qu'il mettait en pratique ce que je suis en train de vous enseigner pour le moment. Il montrait donc beaucoup de foi dans son obéissance, et Dieu l'en a récompensé, et nous en a récompensé, puisque cela lui a permis d'évangéliser tout l'Ouest. Ce qu'il aurait pu faire s'il s'était tenu à un seul diocèse. Autrement dit, on a étendu son champ d'action. Ce n'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, essayons donc d'être toujours soumis aux autorités légitimes. Encore une fois, c'est extrêmement difficile en ce moment. Eh bien, il nous est demandé une fois plus grande, un point c'est tout. Il nous est demandé davantage qu'à d'autres. Ce serait plutôt un honneur que le bon Dieu nous fait. Encore une fois, il n'est pas question d'aller au-devant des difficultés. On peut tout à fait faire œuvre de diplomatie, autant que possible. Et j'en arrive à l'apostolat des laïcs, le vôtre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que cet apostolat? Eh bien, faites tout ce que vous pourrez, et de la manière que vous voudrez. C'est anarchique, mais il faut le faire, hein. Il faut que vous ayez envie d'aider notre Seigneur à gagner des âmes. Je cherchais les mots parce que je n'aime pas que nous nous figurions être capables de sauver des âmes. C'est notre Seigneur qui les sauve, mais il a besoin de nous. Il veut avoir besoin de nous. Il veut se servir de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais ces serviteurs, il veut les utiliser, tout inutiles qu'ils sont. Alors soyons apôtres le plus possible. Demandons à Dieu la grâce de souffrir un petit peu, au moins un petit peu, de voir que tant d'âmes autour de nous sont indifférentes à ce salut qu'il aurait proposé. Quand vous êtes au milieu d'une foule, dans le métro ou ailleurs, et que vous regardez la tête de tous ces gens qui circulent là, il faudrait que vous ayez un petit pincement au cœur. Alors, c'est le début de l'apostolat, si vous voulez. Quelle est la manière? Alors je donne ici une manière en général et puis ensuite une manière particulière dont je dirais beaucoup moins de choses. La manière en général, il faut d'abord laisser savoir qu'on est chrétien. J'ai déjà dit ces choses-là à certains qui vont penser que je me répète, mais comme c'est important, ça ne fait rien. Il faut laisser savoir qu'on est chrétien. Ne pas le cacher. Ne pas non plus le crier sur les toits. Non pas parce que c'est mal de le crier sur les toits, mais parce que c'est une mauvaise tactique, cela indispose. Voyez-vous, quelqu'un qui passe son temps à parler de ces choses-là, agace. C'est vrai, par exemple, pour des parents qui parlent trop de ces choses-là à leurs enfants, à un certain âge. Les enfants savent fort bien ce que pensent les parents, ce qu'ils croient, ce qu'ils savent, c'est pas la peine de le leur chanter sans arrêt, n'est-ce pas ?
le laisser savoir simplement. C'est vrai aussi pour un mari vis-à-vis de sa femme, pour une femme vis-à-vis de son mari. Vous avez des femmes qui cassent leurs pieds, les pieds de leur mari. C'est surtout dans ce sens-là, dans l'autre sens, non, parce que malheureusement, les hommes sont moins portés à la dévotion que les... Je me suis précipité parce que je me suis dit, on va encore dire qu'il est misogyne. C'est pas vrai du tout. Je sais comment sont les choses. Je ne suis pas le seul à le savoir. D'ailleurs, dans le bréviaire, il y a une prière qu'on adresse à Dieu « Pro devoto femineo sexu », pour le dévot sexe féminin. Donc, je ne suis pas le premier à le remarquer. Les femmes, en principe, parce que ce n'est pas le cas en ce moment. C'est curieux, mais en ce moment, la religion est en crise, surtout chez les femmes. C'est grave, d'ailleurs. Mais en principe, les femmes sont plus portées à la piété. Alors, elles ennuient leur mari, quelquefois, avec ça. Et c'est le bon moyen pour ne pas avoir de résultats, ou de bons résultats tout au moins. Parce que les mauvais résultats, ils y sont. Hein. Alors, je reviens à ce que je disais, si on veut être apôtre, il faut laisser savoir qu'on est chrétien, qu'on le sache, mais à l'occasion, comme ça se présente. Par exemple, tu peux pas venir me voir demain matin, dimanche, là, à 10h, on arrangera cette petite affaire. Alors, il dit, il faut choisir une autre heure, parce qu'à 10h, c'est l'heure où je vais à la messe. Mais enfin, c'est comme ça, en passant, pour que les gens sachent que vous êtes chrétien. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le crier sur les toits. C'est le premier point, cela. Le deuxième point, c'est plus difficile. J'ai marqué ici, se qualifier. Si vous voulez être apôtre, si vous voulez faire du bien, il faut que vous ne soyez pas n'importe qui. Par exemple, dans votre profession. Il faut vous qualifier. Il faut que... et à tout point de vue, arrangez-vous. Si vous avez du mal à vous exprimer, eh bien, prenez des leçons. Ne le faites pas parce que c'est inutile. Mais enfin, je veux dire, qualifiez-vous le plus possible. Les résultats, c'est Dieu que ça regarde. Hein. Je ne sais pas si vous y arriverez, mais vous y arriverez en partie. Si vous voulez être... si vous voulez être le meilleur dans votre profession, vous n'y parviendrez peut-être pas, mais vous progresserez. Alors, il faut vous qualifier. Parce que si vous êtes quelconque, eh bien, vous avez beau dire, vous avez beau faire, ça ne donnera rien du tout. Alors, vous qualifiez. Et puis, dans la troisième remarque, j'ai mis ici, voir venir. Mais j'en ai déjà un peu parlé. À propos des personnes qui, pour faire le bien, agacent les autres. Il ne faut pas présenter trop visiblement votre marchandise. Il faut que vous laissiez venir. C'est-à-dire, au lieu de provoquer les questions, si provoquez-les, mais il ne faut pas que ça se voit. Hein. Il faut que ce soit les autres qui posent les questions, en tout cas. N'allez pas dire, oh, à propos, je vous ai entendu dire ceci hier, mais pas du tout, écoutez-moi. N'engagez aucune discussion, ne répondez qu'aux questions. Et n'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin que les questions. Répondez juste, ne vous laissez pas emporter, ne débordez pas. N'ayez pas peur de tenir, n'ayez pas l'air de tenir à vendre votre affaire. Ça, c'est pas très surnaturel, ce que je vous dis là. Mais je crois que c'est très habile. J'ai repéré, c'est tout de même un exemple qui pourrait bien étranger à l'affaire, mais qu'il y a des garçons qui ont beaucoup de succès auprès des filles, et des filles qui ont beaucoup de succès auprès des garçons. Ce n'est pas forcément les garçons qui courent après les filles, ni les filles qui courent après les garçons. Ce sont les gens qui voient venir, qui laissent venir. Mais ce ne sont pas des indifférents, ce sont des habiles. J'en connais. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, vous autres là-bas, mais enfin, prenez ça au passage quand même. Hein. Si une demoiselle vous plaît, les garçons là-bas, ne le montrez pas tout de suite. Laissez-la venir. Alors, pour ce qui est de l'apostolat, c'est pareil. Il ne faut pas ennuyer les autres, il faut répondre à toutes les questions. Et quand vous ne savez pas répondre, dites-le. Si on vous pose une question, vous en avez, ceci, là. Ah, vous dites, je ne sais pas. mais je vais me renseigner. Mais n'allez pas en dire plus long que vous n'en savez. Vous ferez du mal, vous ferez pas de bien. Alors la manière maintenant, ça c'était la manière en général, la manière en particulier. Chacun a sa grâce. Il faut que vous soyez apôtres, chacun a sa manière, mais essayez de trouver cela. Il y a des gens, des dames surtout, qui sont capables de bien faire le catéchisme, mais pas toutes. Eh bien, c'est là qu'elles fassent le catéchisme. Il faut avoir un certain goût à faire les choses, je veux dire. Hein. Non seulement la compétence, il la faut, la compétence, une vague compétence, mais un certain goût à le faire. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose à contre-cœur. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne se sentent aucune compétence particulière de ce genre. Alors, chez eux, l'apostolat sera plus individuel. Il y en a chez qui ça se passe en conversation, chez qui ça se passe très très bien. Il y en a d'autres qui, je sais pas moi, qui réunissent des garçons et des filles sous tel ou tel autre prétexte, etc. N'est-ce pas ? Je vous rappelle ce que j'ai oublié de vous dire au tout début, parce que c'est tout de même le plus important. Il faut voir le but. Le but de l'apostolat. Que cherche-t-on ? Eh bien, il faut chercher à amener les autres au sacrement. Notre Seigneur l'a dit en d'autres termes, il a dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, enseignez pour les amener au baptême. Alors faire de l'apostolat, pour ce qui est de vous, pour ce qui est de moi, cela consiste à donner envie aux gens de fréquenter l'Église, de recevoir notre Seigneur, de se confesser. Vous n'êtes pas obligé d'avouer votre but, mais il faut que vous l'ayez là. Dans la tête. Ce n'est pas de la propagande. Hein. C'est un apostolat. Il s'agit de gagner des âmes pour le ciel. Il ne s'agit pas de grossir les effectifs. Nous ne sommes pas un parti politique. Il s'agit de gagner des âmes pour le ciel. Or, en principe, sauver son âme, c'est fréquenter les sacrements. C'est le but que nous nous proposons, n'est-ce pas ? Alors, la manière en particulier, vous voyez vous-même. Hein. Et encore une fois, la manière la plus habituelle, c'est une façon individuelle de procéder. Mais quelquefois, vous avez des personnes qui sont attirées par telle action plutôt que par telle autre. Et qui ne ressemblent pas à ce que je viens de raconter. J'ai marqué en tout dernier, il me reste 2 minutes là, j'ai marqué le denier du culte. Mais qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Ah, c'est rien du tout. Je pense que je voulais dire. De toute façon, c'est beaucoup moins important. J'ai aussi marqué, mais j'en ai déjà parlé, la soumission aux gens d'église. Encore une fois, j'y reviens parce que ça me paraît assez important. Et pour cette raison que je viens de dire, que nous ne sommes pas un parti politique, mais que nous travaillons pour le salut des âmes. Or, c'est quelque chose de tout à fait surnaturel. Et il faut que, de plus en plus, nous considérions l'église comme une affaire humaine, bien sûr, mais divine en même temps. Ce n'est pas une institution purement humaine. Dans une institution purement humaine, on peut y aller un petit peu fort, on peut se dispenser d'obéir, c'est pas bien d'ailleurs de toute façon, mais enfin, ça peut avoir de bons résultats. Je ne dis pas que c'est bien de le faire, mais ça peut avoir de bons résultats. Dans l'Église, non. Il ne faut pas le faire. Et il faut compter sur Dieu. Il a promis son assistance à son Église jusqu'au dernier temps. Et c'est par cette manière, c'est dans cette manière que nous obtenons sa bénédiction. Je vous parlais de Saint Grignon de Montfort tout à l'heure, qui a fait tant de choses, précisément parce qu'on l'empêchait, on voulait l'empêcher de le faire. Alors, ayons assez de foi pour cela. Et encore une fois, soyons très habiles. Hein, je vous ai beaucoup prêché l'habileté ce soir, et je termine là-dessus. Nous n'avons pas à provoquer nos supérieurs. Il faut les mettre en condition. Il faut les amener à dire oui. Nous n'avons pas à les prévenir sans arrêt de ce que nous faisons. Nous sommes des adultes, n'est-ce pas ? Mais soyons bien obéissants et ayons beaucoup de foi.